peut-être l'idée de l'initiation un petit peu à la science-fiction par ton frère, comment t'es tombé dedans, comment t'en as lu pour la première fois?
Voilà, je ne sais plus dans quel livre j'ai lu pour la première fois, mais enfin, c'est vrai que mon frère, qui avait un goût pour la science et qui est devenu d'ailleurs un otorhino de haut vol, qui est même devenu labyrinthologue, il a inventé un nouvel truc médical. Donc, il aimait beaucoup la science. Donc, il lisait de la science-fiction, enfin, il lisait Jules Verne, il lisait Wells. Donc, il m'a plus ou moins orienté vers ça très rapidement. Et comme il y avait une très bonne librairie, enfin plutôt bibliothèque à Issy-les-Moulineaux où j'étais, donc je cherchais partout tous les livres qui pouvaient commencer par Lune, par Mars, par Terre, par Temps, par... Bon, évidemment avec des grandes déceptions, mais enfin c'est quand même là qui m'a permis de découvrir qu'il y avait des tas d'auteurs français qui écrivaient donc ce qu'on appelait les romans imaginaires. Hein. Comme Jacques Spitz ou Maurice Renard, Rony, Aîné, etc. Et là, donc, j'ai commencé à faire une collection de romans de science-fiction français anciens, mais tout en sachant que ça ne s'appelait pas comme ça. J'accumulais des livres. Si bien qu'il s'est trouvé un bon arrangement, en ce sens que lorsque la première librairie s'est ouverte rue des Beaux-Arts, avec une exposition qui était organisée par Valérie Schmitt, puis Stéphane Priel, Guy Pilotin et Jacques Bergier, et, donc Boris Vian et puis Raymond Queneau. Donc là, moi je suis arrivé, et puis j'ai dit à Valérie, que je ne connaissais pas, voilà, puisque vous allez ouvrir une librairie de science-fiction, j'ai 5 valises de romans de science-fiction anciens français. Ah, mais oui, c'est très bien parce qu'on n'a rien à vendre. Forcément, il y avait juste la collection Anticipation qui venait de naître. Il y avait quelques rayons fantastiques. Et puis, tout d'un coup, 2 revues qui paraissaient, Galaxie et Fiction, le même jour.
Ça, c'était en quelle année?
Ça, c'était en 53. C'était en 53.
La
Enfin,
librairie, c'était la Balance.
La Balance, oui. Donc, il s'est trouvé que, comme la personne qu'elle avait choisie au début, a changé de métier, donc je suis devenu l'assistant de Valérie tout de suite, très rapidement. Donc j'étais au cœur du problème, à la fois je passais mon temps, comme j'avais l'œil qui était formé à la recherche des livres anciens et qu'on n'avait pas grand-chose à vendre, donc je faisais tous les quais à toute vitesse et hop, avec mon œil, je ramenais 40 bouquins de vieille science-fiction. C'était assez amusant. Et donc, alors évidemment, ça nous permettait de faire des prix qu'on multipliait, parce que donc on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Heureusement qu'on avait un mécène qui était Jean Houbier, qui avait ouvert une librairie de poètes dans laquelle il y avait des gens comme. Voilà que j'oublie son nom maintenant, bon, c'est pas très grave. Enfin, il y avait toute une réunion de grands poètes français qui venaient. Donc, Valérie, un jour, lui a dit, écoutez. Moi, je viens de lire Le Triangle quatre côtés. C'est absurde de continuer avec vos poètes, bon, qui sont très connus, mais enfin, bon, ça ne sert à rien. Et moi, je vous propose de faire une librairie de science-fiction. Et alors, elle a dit, ben oui, d'accord. Donc, ce Jean Houbier était un personnage tout à fait charmant, qui était quand même assez riche, puisqu'il possédait les laboratoires Houbier, les éditions Houbier, etc., etc. Et en plus, il était extrêmement sympathique. Donc on a commencé là à recevoir tout le monde, c'est-à-dire que c'était ouvert en permanence. Il y avait à côté un petit bar charbon, enfin il y a pas mal de bois et charbon à l'époque, bar bois et charbon dans la rue de Seine. Et il y en avait un particulièrement qui avait pour la première fois amené du Sancerre. Alors le Sancerre était complètement inconnu. Donc il y avait des gens qui venaient de partout parce qu'il y avait tous les amateurs de science-fiction d'avant-guerre qui ne s'appelaient pas... qui connaissaient la science-fiction, puisqu'ils étaient abonnés à Amazing ou à des tas de revues de ce genre, et qui venaient donc attirés par cette lumière nouvelle qui s'ouvrait en 53, alors qu'ils en rêvaient depuis toujours. Et donc, la plupart, je connais par exemple, il y avait un docteur Dess qui était à Rennes, et qui, chaque fois qu'il arrivait, amenait 7 bouteilles de Sancerre. Enfin, c'était vraiment très joyeux. Donc c'était une librairie qui n'était pas immense, mais enfin on pouvait accueillir une trentaine de personnes, Puis surtout qu'il y avait un atelier de reliure attenant dans lequel on pouvait s'étendre quand le personnage relieur qui était là, qui était un vieil anard bougon, s'en allait une fois son travail terminé. Donc on a passé des moments absolument extraordinaires parce que finalement tout se naissait. Donc tous les jeunes auteurs qui avaient envie de publier dans Fiction ou dans Galaxy, bon, dans Galaxy, il y a très peu de gens, je crois qu'il y a Klein qui a publié une nouvelle dans Galaxy. Et donc dans Fiction par contre, on attendait et finalement Maurice Renaud publiait des vieux auteurs français d'avant-guerre, ou alors une nouvelle de Maupassant, etc. Heureusement qu'il a rencontré, puisqu'il habitait le même immeuble, Alain de Rémieux, et il a dit à Alain de Rémieux, ben, vous aimez la science-fiction, écoutez, si vous pouvez venir à Fiction pour m'aider. Donc Alain est arrivé, et là, à partir de ce moment-là, parce que Jacques Berger, lui, lisait nos nouvelles, donc il les lisait avec une rapidité considérable, donc une nouvelle de 12 pages, il faisait... C'est très bon. Je vais le recommander à Maurice Renaud. Alors, il a vu Maurice Renaud pour les rien. Donc, heureusement, Dorémieux est arrivé à commencer à prendre d'autres nouvelles. Donc, moi, ma première est parue en 55. Ça s'appelait L'œuf d'El Duo. Enfin, il avait publié quand même des nouvelles de Sternberg. Parce que, bon, Sternberg était ancré un peu dans une histoire. Il avait quand même une dizaine d'années de plus que nous. Et puis donc sont arrivés des tas de gens qui ont disparu depuis. Donc un personnage qui a été très important dans la science-fiction par la suite, qui a disparu et qui est devenu producteur de films porno par la suite, qui s'appelait Patrice Rondard. Et c'est Patrice Rondard qui a créé Satellite, avec un dénommé Jean Cap, qui était un personnage assez extraordinaire aussi, qui une fois nous a invités... qui écrivait des poèmes sur les poèmes de science-fiction, et donc qui a aidé Patrice Rondard à faire Satellite. Et donc il nous a invités chez lui, alors on est arrivé, et alors là il y a eu des personnages extrêmement différents, il y avait Julia Verlanger, Juliette Rabe, qui ne venait pas du tout à la Balance, et qu'on a donc coopté, et là il n'y avait que du whisky, il n'y avait rien à manger, il buvait d'ailleurs un litre par jour. Donc il en est mort. Mais enfin, ça, c'est pas l'autre, c'est ça. Enfin, donc, tout s'est aggloméré autour de ça pendant les 3-4 ans que ça a duré, parce que finalement, on a été sauvés parce qu'un ami de Sternberg avait créé dans le premier étage le club du livre d'histoire. Et donc, Valérie et moi, on en profitait largement, parce que finalement, pour vivre, comme c'était difficile, de temps en temps, on vendait Napoléon à 400 francs dont on se mettait là dans la poche. Et on vendait aussi pour le club d'histoire. Et puis un jour, Jean Aubier est mort, et puis donc sa famille a dit, ben non, nous, on ne continue pas. Mais enfin, le conglomérat de la science-fiction française était en train de s'établir, on commençait à faire dans Fiction des critiques, très, très agressives sur tout ce qui attaquait la science-fiction, et en même temps, on avait quand même une très bonne presse, parce que finalement, comme on était soutenu par Vian, par Queneau, par Carouge, par Butor qui est venu nous voir, qui au début était complètement en phase avec nous, ce qui n'a pas été le cas par la suite. Donc Sternberg aussi, qui était quand même assez connu, qui écrivait dans France, qui a commencé à écrire dans France Soir. Donc finalement, on avait jusqu'au début des années 60, la science-fiction était très bien perçue. Puis par exemple, quand il y a eu le prix Jules Verne, quand j'ai eu le prix Jules Verne en 1962, donc c'était au deuxième étage de la Tour Eiffel, Georges H. Gallet avait amené toute la presse, il y avait, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, une starlette qui a été la femme de Maurice Jarre, qui était là, qui m'a embrassé, donc c'était magnifique, il y avait un banquet extraordinaire, donc ce prix Jules Verne a pris une répercussion, à tel point qu'en m'arrêtant, en allant au Crotoy, en m'arrêtant dans un hôtel à Grandvilliers, on descend avec Carl de l'heure du déjeuner, il y avait donc à l'époque les actualités françaises, non, je ne sais plus ce que c'était, oui, qui passaient à la télé, et je me vois, c'était un truc extraordinaire.
Ça fait rêver.
Oui. À la suite de quoi, j'ai lu quelques critiques, même une vingtaine de critiques, très courtes, dans le sens, un peu partout. particulièrement le journaliste de combat qui a dit, bon, Philippe Curval vient d'écrire son premier roman de science-fiction, ben, c'était le deuxième, mais c'est très bien, mais je le plains parce qu'il va être obligé d'écrire 7 romans par jour, par mois, par an, pour vivre.
Et les liens avec les surréalistes,
ben, moi, les liens avec les surréalistes, c'était plutôt par les exilés du surréaliste, c'est-à-dire en l'occurrence Feridun Oveida, qui signait sous le nom de Oda, et qui faisait la critique cinématographique dans fiction, et mon ami Ado Kirou, qui lui était cinéaste, qui a fait 2 films, qui a après travaillé à la télé, qui pendant des années a fait une émission sur pour les femmes l'après-midi à 4 heures. Et qui, des années plus tard, a voulu faire une adaptation cinématographique d'Attention les yeux, et qui m'a amené chez lui, etc. On a longuement bavardé, il m'a amené son scénario, et il est mort. Enfin, du point de vue du cinéma, ça a toujours été à peu près comme ça que ça s'est passé. Soit, j'ai pendant 4 ans du Canada, il n'y a pas tellement longtemps, je recevais des droits pour pouvoir maintenir la pression autour c'était un autre roman, c'est Il y a quelqu'un, puis finalement moi, ça ne s'est pas fait. Enfin, il y a au moins 10 histoires comme ça. Et en même temps, ce que c'est amusant, c'est que quand on était à la librairie de la Balance, chaque année venait un producteur de télévision, enfin un apprenti producteur de télévision, qui disait on va faire une émission de science-fiction à la télévision. Donc Gérard Klein, Sternberg, André Rueland et moi, chaque année, pendant 7 ou 8 ans, on préparait un synopsis pour une série d'épisodes qui ne se sont jamais réalisés, évidemment. De la même façon qu'avec Alain Doré-Mieux, chez lui, on a fait toute une série radiophonique. Et avec Topor aussi, quand j'habitais à Étretat, on a fait une série radiophonique de science-fiction. Tout ça, c'est dans des bobines quelque part, je ne sais pas où c'est. Mais enfin, bon, il n'y a que ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, le début, le pilote, quoi. Voilà, donc en gros, l'atmosphère générale est extrêmement joyeuse jusqu'au début des années 60, jusqu'à ce que Valérie donc, se transporte dans une petite librairie microscopique rue de Seine qui s'appelait l'Atome. Et là, sont arrivées d'autres personnes comme Guamard, etc., Sadoul, qui sont aussi venus nous voir. Et donc, ça n'a fait que grossir et que s'accentuer, que la science-fiction française a commencé à prendre une certaine renommée, en ce sens que, finalement, on était publié donc par Gallet et par Doré-Mieux, et qu'on a eu quand même plutôt des bonnes critiques dans l'ensemble, puisque finalement, quand j'ai fait ce livre qui s'appelle Histoire de lire, où j'ai publié toutes mes critiques pendant des tas d'années, finalement, sauf à partir du moment où dans Bifrost, on a commencé à dire du mal de moi, jusque-là, je n'ai eu que des bonnes critiques.
tu disais, pour rester sur les années 50, je lisais un article de l'IB, où tu parlais de l'arrivée de la science-fiction anglo-saxonne.
Oui, ben voilà, c'est ça le problème fondamental qui a fait qu'on a eu du mal à survivre. C'est le fait qu'il existait, donc aux États-Unis surtout, depuis 1929, des milliers et des milliers de nouvelles et des centaines de romans qui étaient à vendre pour rien du tout, hein, puisque finalement, c'était des soldes pour les Américains. Donc, Maurice Renaud, lui, il ne s'en est pas privé. Et donc, aussi Del Duca, dans sa revue Galaxy, non plus. Et donc, finalement, ils avaient pour rien des quantités de nouvelles de quoi remplir ces deux revues. Et nous, évidemment, on a beau être passionnés. J'ai jamais pensé vraiment vivre de la science-fiction, vivre de ma littérature. J'avais lu un article de Bernard Pivot dans le Figaro disant qu'il y avait 100 écrivains en France qui vivaient à peu près de leurs plumes, donc j'avais compris que de toute façon, ça n'était pas une solution. Bien que, comme je l'ai répété très souvent, de 1955 à 2005, j'aurais pu vivre du SMIC, avec tout ce que j'ai publié. j'ai quand même, il y a eu des tirages dans le temps de 120 000 exemplaires, etc., etc. Bon, tout ça a fini par s'arrêter, mais bon, c'est une autre histoire. Bon, donc finalement, on a eu beaucoup de mal à imposer d'être rémunéré, puisque finalement, à notre juste prix. Et bon, c'est un peu ça la difficulté. Donc, heureusement, on était quand même publié, mais enfin, bon, mal payé. Donc, c'est quand même difficile. Surtout que moi, je ne fais pas partie des écrivains qui pensent que quand ils ont écrit une ligne, ils doivent être rémunérés. Bien que, par exemple, André Rueland, Kurt Steiner, lui, quand il écrivait une ligne, il pensait que c'était 2 centimes qui rentraient dans sa poche. D'un certain point de vue, il avait raison, mais enfin, bon, il y a quand même la loi de l'offre et de la demande. Et malheureusement, c'est pas parce qu'un écrivain écrit que les autres sont forcés de l'acheter. Bon.
Certains de ces écrivains traduisaient, ou c'est arrivé plus tard? Parce que du coup, l'arrivée de la science-fiction américaine, c'est aussi des découvertes littéraires. Enfin, il y a
oui, absolument. Il y a
eu en collection, voilà. et beaucoup d'auteurs, du coup, ont été rémunérés en étant traducteurs, non?
Oui, oui. Bah, d'une part, quand même, il faut bien dire que moi, personnellement, je n'ai pas écrit de l'imitation de la science-fiction anglo-saxonne, mais beaucoup d'entre eux ont écrit à la française quelque chose un peu dans l'imitation. Par exemple, Gérard Klein, au début, il était complètement Van Vogtien, après il a été Bradburien, etc. Mais enfin, bon, il avait quand même aussi un ton qui était personnel. Donc, malgré tout, l'influence américaine, finalement, a été importante parce qu'elle nous a apporté quand même des chefs-d'œuvre et qu'on était absolument éblouis par la beauté de certaines de ses œuvres, de Sturgeon, de Shakley, de Brown, de Van Vogt, de tous les écrivains de l'époque. Et j'en oublie beaucoup. Et donc ça nous a apporté quand même aussi, peut-être ça a animé notre imagination, mais notre imagination personnelle, qui fait que la science-fiction française était quand même un peu différente de la science-fiction anglo-saxonne dans son ensemble, et que pour la première fois, Doremieux a même décidé à faire un numéro spécial de fiction avec que des nouvelles de science-fiction française, et finalement ça a été assez bien accueilli, parce que d'une manière générale, dans fiction, souvent dans le courrier des lecteurs, en disant « encore des nouvelles de science-fiction française », alors qu'ils attendaient des nouvelles de science-fiction américaine. Bon, alors effectivement, quand on va revenir des problèmes des traducteurs, c'est que Gérard Klein, par exemple, a commencé à traduire Dick pour la première fois, quoique il y en avait beaucoup de nouvelles de Dick dans fiction avant. Qu'est-ce qu'il y a? Demuth, lui aussi, s'est mis à traduire. Enfin, il faut bien dire que tous les éditeurs, tous les auteurs qui se sont mis à traduire, se sont arrêtés d'écrire, que ce soit Doremieux, Klein, Duvic même par la suite, et Demuth. Et ça leur a apporté un tort terrible. Donc, effectivement, ils ont vécu de ça, mais malgré tout, enfin, Demuth quand même, et Doremieux étaient quand même payés pour faire les revues qu'ils faisaient, puisqu'ils ont créé après le Club du Libre d'Anticipation, ils ont fait aussi Suspense, Alfred Hitchcock, etc. Donc les éditions Opta sont devenues un gros machin dans lequel ils avaient quand même des salaires décents. Mais enfin, bon, étant donné qu'ils avaient de gros besoins, il leur fallait aussi gagner de l'argent en traduisant, ce qui un peu les a perdus, quoi, faut bien dire, puisqu'ils sont tous arrêtés d'écrire. Doremieux a repris un peu, Demuth a écrit quelques nouvelles, Klein s'est arrêté complètement. Donc quand même, ça n'a pas été très favorable. Et Doremieux, oui, voilà. Bon, à partir d'une certaine année, vers les années 60, il y a eu une décrudescence de la critique d'une manière générale. Il n'y avait pratiquement plus rien dans les journaux quand on publiait. Et en été, d'ailleurs, on publiait pratiquement plus de science-fiction. Bon, il y a eu la fin du Rien Fantastique. Bon, il y a eu toute l'école dont je ne parle pas parce que je la connais très mal, Anticipation. Bon, j'en ai lu à l'époque, puisque finalement, quand on était à la librairie, qu'est-ce qu'on avait à vendre? Anticipation du fleuve noir, L'Orient fantastique, et puis quelques livres de satellites, puis donc tous les livres anciens. Donc, ce qui ne faisait pas énormément de livres à vendre, puisque les collections ne se multipliaient pas. S'il y a eu la collection aussi dans Metal. Donc aussi, il y a eu des jeunes éditeurs qui venaient nous voir et qui ont recruté des jeunes auteurs qui étaient sur place à la librairie de la Balance. Donc là, dans les 60, bon, moi, je pensais qu'il fallait que j'écrive autre chose, mais de toute façon, tous mes romans qui ne sont pas de la science-fiction partent quand même de possibilités dans la vie réelle qui sont un peu différentes de celles qu'on imagine. Par exemple, mon personnage central d'Attention les yeux est quand même un marginal qui fait de la photo, qui fait des photos romans et qui n'a pas de famille. Et donc, finalement, il invente quelque chose. C'est d'une part de payer les acteurs pour jouer les rôles de sa famille. Et donc c'est un livre sur la déconstruction de la famille que j'ai écrit et qui est complètement différent de tout ce que la littérature générale pouvait. Donc en plus j'ai eu des romans publiés par Gallimard, La forteresse de coton, qui était quand même, bon, qui a été repris par la suite par la science-fiction, mais enfin quand même plutôt un roman fantastique, onirique et surréaliste.
Enfin oui, j'ai offert l'édition il n'y a pas longtemps, donc c'est effectivement une édition NRF.
Oui,
une
voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, je suis parti un peu dans la littérature générale, et puis tout a recommencé vers le début des années 60, vers la fin, au milieu des années 70, quand... c'est-à-dire que Robert Laffont, parce que on avait un ami commun, qui m'avait présenté Robert Laffont, et Robert Laffont m'avait proposé de faire une collection de science-fiction dans sa maison d'édition. Bon, il s'est trouvé que moi, je lis très mal l'anglais, puisqu'on avait fait un pari, Klein et moi, en disant à partir des livres anglais, on va apprendre avec le dictionnaire. Donc Gérard, lui, il a fait ça, et bon, il a donc pu traduire, etc. Moi, paresseux comme je suis, ayant appris l'allemand, j'ai pas eu le courage, donc je parle très mal l'anglais, donc il n'était pas question pour moi de diriger une collection avec des livres anglais. Et j'avais proposé à Versin de prendre la partie anglaise, enfin anglo-saxonne, et moi je m'occupais de la partie française. Et donc il s'est trouvé que, à la suite d'un problème particulier, puisqu'on avait donc avec Versin et d'autres personnes pour Pauvert préparé une grande anthologie du roman populaire, qu'on avait commencé, moi j'avais lu énormément de choses, tout était prêt, et le principal initiateur de ce projet n'a pas écrit toute sa partie qui était les livres policiers, etc. Donc finalement on s'est trouvé Versin et moi ayant presque terminé notre ouvrage, et l'autre n'ayant rien fait, il s'appelait Denis Chevalier, et il dirigeait aussi le salon de la sculpture. Donc, chez Pauvert, on a dit qu'on ne peut pas. Donc, Versin était absolument furieux de ne pas avoir pu être publié et être payé pour ce qu'il avait fait. Et donc, quand je lui ai proposé ça, il a refusé. Donc, j'ai dit à Laffont, je m'excuse, je ne peux pas assumer. Donc, Klein, quelques années plus tard, a eu... le bonheur de le faire. D'ailleurs, je pense qu'il était beaucoup plus doué que moi pour diriger une collection, parce que finalement, je préfère écrire que diriger une collection. D'ailleurs, finalement, diriger une collection aussi, ça implique qu'on n'écrise plus non plus.
Voilà. Vous aviez la sensation vraiment d'être au début de quelque chose, que quand tu en parles de la librairie, il y a des jeunes auteurs qui arrivent, vous publiez des
nouvelles,
il y a des collections qui naissent. C'était conscient que là, vous créez quelque chose.
C'est-à-dire que moi, mon projet fondamental, c'était de créer une nouvelle école littéraire, puisque j'étais coincé entre le surréalisme qui se terminait, le nouveau roman qui commençait mais qui n'était pas ma tasse de thé, ni plutôt mon verre de vin. Et donc je disais, on va créer une nouvelle école littéraire qui serait... on ne pouvait pas l'appeler ça le futurisme, puisque c'était déjà pris, mais il fallait trouver quelque chose.
Oui, parce que toi, science-fiction, ce n'est pas un terme qui t'a...
Ah non, ce n'est pas un terme, c'est parce que ça nous est arrivé sur la tête. Ouais. Et donc finalement, j'ai été happé par les éditeurs, parce que finalement, à cette époque-là, le polar, enfin ce qu'on appelait le roman policier à l'époque, était complètement en perte de vitesse. Et donc ils cherchaient un moyen d'avoir des romans populaires, des romans qui se vendent. Et donc ils avaient toute cette énorme masse de livres anglo-saxons, et puis quelques auteurs français. Et donc finalement, quoi que j'ai pu faire, parce que j'ai toujours, donc comme j'avais publié chez Gallimard, j'aurais proposé aussi tous mes romans de science-fiction chez Gallimard. J'ai obtenu toujours un refus systématique. J'ai un courrier considérable avec Gaston, avec Claude, avec Antoine. Et ce qui est particulier pour Antoine Gallimard, c'est que finalement, il venait au déjeuner du lundi avec André Roland pour préparer à nous trois une collection de science-fiction chez Gallimard. Donc on a aussi un peu travaillé. Et puis, il est allé trouver son papa Claude, qui lui a dit « Mais non, nous avons ça chez nos domestiques, chez de Noël, chez Hachette, on n'a pas besoin de ça chez Gallimard. » Donc Antoine a raté sa vocation de directeur de collection de science-fiction, comme nous aussi. Et tout ça, c'est des histoires que personne ne raconte, mais qui sont vraies.
Et la revue ? Toi, t'as créé une revue ?
Alors aussi, avec Butor, Sternberg et Jean-Paul Kléber, on devait aussi faire une revue chez De Noël. Et là, donc on avait tout préparé, et c'était bien avancé, et là, on a eu un coup de jarnac, je ne dirais pas de qui, mais de quelqu'un qui était très ancré dans la science-fiction bien avant nous, et qui était un compagnon, qui a aussi voulu diriger Présence du futur et qu'on lui a refusé, et donc qui a fait tout ce qu'il a pu pour qu'on ne fasse pas cette collection chez De Noël.
Ça veut dire quand même que vous aviez l'oreille des grands éditeurs, même si ça ne s'est pas fait.
Oui. Donc on avait quand même de bons rapports. Et moi, personnellement, chez De Noël, je n'ai jamais pu être publié, puisque Robert Canters n'aimait pas du tout ce que j'écrivais. Donc, j'ai pas pu publier chez De Noël avant. Mais par contre, Galet...
Tu as été publié chez De Noël.
Oui, bien après.
Oui, là, on parle de quelle période, en fait, c'est ça.
Oui, alors, au début, si tu veux, quand même, Sternberg a publié donc la sortie de Fond de l'espace. Klein a publié deux livres. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Enfin, il y en a eu... Et puis, il a aussi demandé à des écrivains de littérature générale comme Hugon, d'écrire de la science-fiction. Donc, et moi, bon, le commentaire, c'est moi, ça n'allait pas ensemble. Donc, il a fallu attendre qu'Elisabeth Gilles vienne pour que je puisse, et bien plus tard. Donc là, on en vient un peu, après avoir raconté, me voyant d'autres histoires à raconter, mais enfin, on ne peut pas tout raconter. La deuxième période où, après un creux épouvantable, donc la science-fiction est remontée à partir du moment où Ailleurs et Demain est né, et que Gérard Klein a bien voulu prendre nos romans, aussi bien d'André, et de moi et de Jury. Donc on a créé ce que j'aurais rêvé de faire, mais qui n'a jamais existé, une espèce d'école de science-fiction française avec des romans de science-fiction littéraire qui, en plus, avait quand même un public assez large, puisque les livres, d'ailleurs, demain, même les Françaises vendaient 10-15 000 exemplaires, qui était, et puis après était repris en poche, et là donc par J'ai lu, et donc atteignait 120 000, 80 000, 60 000 exemplaires. Donc là, il y a eu une espèce d'essor considérable. En plus, il s'est créé un nombre considérable d'éditeurs de science-fiction. Alors, il y a eu aussi la science-fiction politique française, il y a eu des tas de choses de ce genre. À un moment, il y a eu, je crois, 18 collections de science-fiction qui sont apparus peu à peu et qui finalement ont étouffé un peu le marché, il faut bien le dire. Dans le cas, il y avait beaucoup d'auteurs français, ce qui leur a permis d'exister pendant un certain temps et qui a quand même été intéressant pour la science-fiction. Et ça a duré pendant un bon bout de temps, jusqu'au milieu des années 80 à peu près. Donc là, à ce moment-là, j'ai bien vu la différence. Parce que quand Elisabeth Gilles, lors d'un des premiers congrès, d'une première convention de science-fiction à Clermont-Ferrand, est venue me voir pour me proposer de créer une anthologie de jeunes auteurs où j'ai donné mon accord et elle était absolument ravie. Là, il y avait, c'était encore grandiose, donc Futur au présent, cette anthologie dans laquelle on retrouve les auteurs qui sont venus par la suite comme Bruce Hollot ou d'autres, Ligny, donc que j'ai publié pour la première fois, enfin disons, publié pour la première fois en littérature chez des éditeurs qui avaient une renommée, alors que jusqu'à présent ils étaient dans quelques fanzines qui se multipliaient aussi à l'époque. Et donc à cette époque-là, je ne sais pas, Je crois que présent, futur, futur au présent a été tiré à 20 000 exemplaires et ça s'est vendu immédiatement. Et des années plus tard, donc quand Elisabeth m'a dit « Écoute, c'est embêtant, j'ai plein d'auteurs qui viennent, je ne peux pas les publier. » Déjà, Présence du futur reposait sur un équilibre entre Bradbury, Asimov, etc., qui vendaient chaque année, puisque c'était les scolaires, 80 000 exemplaires par an. Donc ça permettait à Elisabeth de publier des auteurs français qui ne vendaient que 10 000, 12 000 exemplaires, dans le meilleur des cas, et des fois 7, 5, 6, 4, ça dépend. Enfin, donc il y avait quand même un équilibre qui se présentait, et donc qui était bien. Donc elle m'a dit, tous ces auteurs-là, ces jeunes auteurs, je ne peux pas les publier, parce que, bon, déjà, vous êtes, vous, en limite technique, et donc, il faut, eux, je ne peux pas garantir de leur vendre plus de 1 000 exemplaires, donc ça creuserait un trou terrible dans la collection, et donc il faudrait faire un deuxième futur au présent. Donc j'ai fait Super Futur, et là ça a été quand même une expérience beaucoup plus grande, parce que dans Futur au présent, j'avais reçu à peu près une centaine de nouvelles, sur lesquelles j'en ai choisi je ne sais plus combien, enfin une quinzaine, une vingtaine, 18 je crois. Et là donc pour Super Futur, j'en ai reçu 750. Heureusement qu'elle m'avait adjoint une personne qui connaissait très bien la science-fiction, non, malheureusement, je ne me souviens plus du nom, qui m'a beaucoup aidé pour défricher un peu l'ensemble. Donc, au bout du compte, après quand même près de 8 mois de travail, j'ai pu faire cette nouvelle anthologie, et dans laquelle il y a eu pas mal de jeunes auteurs, d'ailleurs, qui ont plus ou moins écrit de la science-fiction. Donc, tu as eu quelques-uns chez toi, dans Limite, qui sont venus, etc. Et malheureusement, bon, là, ça a été, non pas un échec, je crois qu'ils ont dû en vendre 7-8 000, mais le problème, c'est que tous ces jeunes auteurs, après, se sont tournés vers moi en disant, ben oui, bon, ben maintenant j'ai écrit une nouvelle et je voudrais bien être publié. Alors j'aurais dit, ben malheureusement, je ne suis pas éditeur, alors je peux vous conseiller d'aller voir un tel, un tel, un tel, mais ils se sont retrouvés devant aussi une grande difficulté. Donc vers le milieu des années 80, il y a eu un deuxième reflux, qui a été gravissime pour la plupart de ces jeunes auteurs, parce qu'ils n'ont pas pu se développer. Et alors là, on arrive donc dans ce trou, ce deuxième trou, donc années 60, fin et milieu des années 80. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus?
Moi j'ai une question, parce que si tu n'as jamais été éditeur avec une collection, entre le travail d'anthologiste, entre le travail de critique, entre... ce que tu as préparé avec cette époque de la balance et de l'atome, est-ce que tu as l'impression d'avoir accompagné un petit peu et les auteurs et la science-fiction française sur toutes ces années?
Oui, je crois que j'ai été certainement l'un des critiques qui a parlé le plus de la science-fiction française, puisque quand même j'ai eu donc dans Galaxie d'abord, de Mute m'a offert un espace, j'écrivais à peu près 50 à 60 000 signes tous les mois dans lesquels je publiais, je critiquais des romans, des disques, et en particulier, dès qu'il y avait un auteur français qui m'intéressait, je l'ai fait. Après, ça s'est arrêté, quand Galaxy s'est arrêté, donc on a créé Futur avec Gérard Klein et les frères Bogdanov. Là, on a eu 7 ou 8 numéros. Là aussi, j'ai essayé le mieux possible de parler d'écrivains français. Après, donc, j'ai pu... succédé à Guamard au Monde, et donc pendant 4 ou 5 ans, j'ai même fait les grands articles de la science-fiction française, etc., dans lequel Jacqueline Piatier m'a reproché d'être un peu doux pour les auteurs français. Je lui ai dit, écoutez, on n'en parle jamais, pourquoi je ne pourrais pas le faire, moi? Donc elle a fini par céder. Et puis après, donc j'ai eu la chance de Jacques Chambon, qui a repris la collection Futur au présent du futur, m'a dit, bon, bah, écoute, il n'y a qu'une solution, c'est que toi reprennes la critique dans le magazine littéraire. Et donc là, pendant, depuis, je crois, 1984 jusqu'en 2004, donc j'ai fait la critique chaque mois, donc, et aussi parlé beaucoup d'auteurs français quand je pouvais. Donc je pense que, d'une part, j'ai aussi contribué à célébrer les auteurs anglo-saxons, Et par ailleurs, j'ai quand même soutenu beaucoup de toutes mes forces la littérature française de science-fiction depuis le début, quoi, pratiquement. Même dans fiction, j'ai aussi écrit des articles déjà à l'époque. Enfin, à l'époque, je ne me pensais pas critique. D'ailleurs, je crois que c'est parce qu'une fois, j'ai critiqué surtout Sternberg, parce que finalement, personne n'en parlait. Donc, chaque fois que Sternberg publiait un livre, j'ai publié de longues critiques dans fiction. Et un jour, Valérie m'a dit, je ne te croyais pas aussi intelligent, donc je me suis dit, je dois donc pouvoir être critique.
Et tu as fait un manifeste aussi de la SF.
Oui, alors donc après, on a fait, avec Elisabeth, justement, avant que la science-fiction s'arrête complètement, bon, à la fin des années, milieu des années 80, on a fait une revue qui s'appelait Science-fiction. Donc là, c'était vraiment une revue profondément littéraire dans laquelle il y avait Baudrillard, il y avait des tas de philosophes français, il y avait donc, moi personnellement, comme j'étais rédacteur en chef d'un autre journal, je ne pouvais pas m'occuper, donc on avait proposé à de devenir rédacteur en chef, donc et après on avait un comité de rédaction dans lequel il y avait Elisabeth Gilles, Robert Louis, moi et lui.
On sait que c'est un
homme. Non, mais je l'aimais bien, il avait des très bons rapports. Ah, c'était effrayant. Bien, et donc on a fait. Alors c'était très bien parce que finalement, c'est quand même une revue qu'on vendait à 7000 exemplaires. Donc pour une revue littéraire de science-fiction, c'était assez extraordinaire. Malheureusement, il y avait chez De Noël le chef de fabrication qui ne pouvait pas supporter cette revue, parce que c'était mon ami Roman Chichlevitch qui avait fait la maquette. Donc au début, il s'est arrangé pour qu'on la rate, dans ce sens qu'on pouvait à peine lire les milieux des pages, parce qu'il l'avait faite trop petite, et que Valérie n'avait pas pu donner assez d'argent pour que Chichlevitch accompagne l'impression de cette revue. Après, la deuxième, ça a été mieux, et après c'est devenu vraiment une très bonne revue. Et qui marchait très bien. Et donc ce chef de fabrication de Noël était tellement haineux par rapport à nous que finalement un jour il a publié un spécial Dick qui n'avait plus aucun rapport avec le format aérien. Et Elisabeth Gilles qui partait de Noël a abandonné la revue pour aller chez Julliard. Et donc tout s'est écroulé à partir de ce moment-là. Donc je regarde beaucoup parce que là, vraiment, on créait un peu ce que j'avais eu dans l'idée depuis toujours, de faire une véritable revue littéraire de science-fiction qui a été fiction pendant très longtemps. On peut dire que pendant 15-20 ans, fiction a été quand même un pôle très important et qui était très bien vendu parce que finalement, à un moment donné, tout à fait à la fin des années 50, fiction vendait jusqu'à 30 000 exemplaires parce que Maurice Renaud était très fort. Il avait comme il avait donc aussi la revue Mystère Magazine, donc il avait des agents dans toute la France entière qui obligeaient les kiosquiers de mettre fiction en pile à l'entrée des kiosques, et donc ça se vendait très bien. Donc après, quand il a publié Galaxy par la suite, donc ça s'est divisé, c'est-à-dire que fiction vendait 14 000 et Galaxy 14 000. Ça a duré pendant des années. Et puis donc Gleumuth a repris Galaxy, a fait aussi des critiques. Donc Doremieux lui est parti à Biarritz, a un peu perdu les choses en main, puis après il s'en est occupé à nouveau. Mais enfin bon, fiction a perdu son âme quand Doremieux a abandonné la revue.
Sur mon manifeste.
Oui.
Parce que du coup on est parti sur le.
Voilà, donc finalement, effectivement, dans science-fiction, j'ai publié un manifeste pour la science-fiction dans lequel je reprenais un peu le ton de Breton pour essayer de montrer ce qu'était la science-fiction à mes yeux. D'ailleurs, j'ai aussi écrit dans Europe un article auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle donc Surréalisme et Science-Fiction, dans lequel je montrais que les deux étaient nés en même temps et que finalement c'était quand même très parallèle. Et que finalement la science-fiction découlait beaucoup du surréalisme et que Breton, qui détestait le roman, qui finalement avait proscrit le roman de manière générale et dictatoriale, a quand même beaucoup apprécié les romans de Gracq, ce qui était complètement contradictoire. Mais justement, Michel Carouge, qui a écrit des romans sur les soucoupes volantes, qui était un philosophe à l'époque, et qui était un ami de Butor, et lui a écrit un roman, un livre sur Breton, dans lequel il y a un grand chapitre sur science et fiction, dans lequel il reproche à Breton d'empêcher la science-fiction d'exister, parce que lui, pour Breton, la science-fiction, c'était vraiment rien du tout. Et donc Carouge avait fait un très bon article, dont j'ai repris pas mal dans Europe, dans lequel il expliquait que c'est très important, que la science-fiction était une suite du surréalisme, dans lequel la science ajoutait à la fiction une nouvelle dimension qui était assez importante. Parce que pour revenir au début, finalement, on écrivait des romans dans lesquels, effectivement, la science avait de l'importance, parce que pour nous, la technologie changeait le monde. Bon, on était tout à fait dans les années 50, bon, le laser avait été inventé, les antibiotiques qui allaient complètement... Donc deux pôles qui allaient complètement changer l'univers, mais enfin qui étaient... La télévision venait. Donc trois éléments considérables. La machine à laver, que personne ne peut nier qu'il a complètement changé la vie des femmes pendant... Donc ça a été une invention technologique considérable qui a bouleversé sociologiquement le sort des femmes. Et donc toutes ces choses-là, pour nous, c'était capital, et on voyait que le monde allait changer profondément, puisque la technologie a avancé à pas de géant et changeait complètement les rapports de l'être humain avec la société. Et donc j'ai toujours pensé qu'un écrivain, avant tout, devait parler du monde dans lequel il vivait, que Balzac n'avait fait que ça, que Zola n'avait fait que ça, je ne me compare pas à eux, mais que je pensais qu'un écrivain de notre temps ne pouvait parler que des mutations de la société, et ces mutations de la société passaient par la technologie, donc par la science qui était à la base de cette technologie. Et qu'en même temps, il y avait une simultanéité entre la science et la fiction, puisque finalement, pour qu'un chercheur scientifique trouve quelque chose, il fait qu'il crée une fiction. Parce que finalement, s'il ne créait pas une fiction, on restait dans le statu quo et que le chercheur n'inventait rien de nouveau. Comme nous, de notre côté, on avait inventé les choses que les scientifiques n'ont jamais réussi à faire, comme l'invisibilité, comme le voyage dans le temps, qui restent toujours des créations de la science-fiction, quoi qu'en disent les scientifiques. Et pour ça, donc... Dès le départ, j'ai pensé que ma destinée était d'écrire au moins des livres dans lesquels le thème général était complètement à côté du réel, et qu'à partir de là, il fallait créer toute une histoire qui reposait sur ce fondement de départ et qui allait donc justifier par la logique interne qu'il décrivait que la proposition de départ était viable, même si elle n'existait pas. Et donc c'est un des propos de la science-fiction, c'est d'essayer d'anticiper, donc il y a aussi une collection d'anticipation, parce que l'anticipation finalement existe aussi dans la science-fiction. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on n'a pas continué ce mot d'anticipation qui était tout aussi bien en France, puisqu'il y avait une collection qui existait, et que finalement on était aussi des enfants de Jules Verne. Bien qu'il faut bien dire que, pour moi, Jules Verne, ça n'a pas été un de mes auteurs qui m'a fait démarrer. En dehors de L'île mystérieuse, qui pour moi est certainement un très très grand roman, parce que justement, c'est la construction du monde à partir de rien, par un père et ses enfants. Et donc là, je crois qu'il y a un roman de science-fiction à partir de presque rien, puisque finalement... Il recrée une technologie, mais une technologie primitive. Mais enfin, c'est intéressant de voir qu'un homme sans rien arrive à recréer toute une civilisation. Et donc ça, c'est un des romans de Jules Verne qui m'a toujours absolument fasciné. Par contre, Wells a toujours été pour moi l'auteur phare, parce que véritablement, lui dépassait les problèmes et arrivait à créer des romans dans lesquels les problèmes de société amené par la technologie, allait changer l'univers, etc. Quand même. Donc un des deux pôles fondamentaux de la science-fiction, Verne et Wells, qui chacun, dans leur domaine, ont créé une forme de science-fiction.
Je lisais sur la revue RESF, il disait il est difficile de trouver dans l'œuvre de Philippe Curvin un centre. Est-ce que finalement, le, plus qu'un centre, le fil rouge, c'est ça pour toi dans tout ce que tu as écrit? Ce rapport au monde, ce rapport à la
Oui, c'est absolument. Oui, oui. Parce que dans l'ensemble, finalement, j'ai très peu écrit de romans qui se passent dans l'espace. Sauf que le premier, enfin, les deux premiers que j'ai écrits, surtout Le ressac de l'espace, étaient quand même assez originales à l'époque, en ce sens que pour la première fois, il y avait un extraterrestre qui n'était pas méchant, qui n'était pas envahisseur, et il n'y avait pas aussi de méchants colons qui attaquaient une planète étrangère. Donc c'était un roman qui était un peu différent de tout ce qui se publiait. Mais enfin, il est évident que là, j'étais quand même influencé par les Américains qui avaient écrit des tonnes de space opéra à l'époque, qui finalement, en France... n'avait pas tellement, en dehors de René Aîné et de ses romans magnifiques, il n'y avait pas tellement de gens, Maurice Renard ni Jacques Spitz écrivaient plutôt sur la société et n'écrivaient pas des romans qui se passaient dans l'espace. Donc l'influence finalement a été quand même grande, dans ce sens que mes deux premiers romans se passaient dans l'espace, l'un sur Vénus et l'autre aussi sur Vénus. Mais enfin, la plupart du temps, il se passait sur Terre, puisque c'était justement le rapport entre les extraterrestres pacifiques et qui arrivaient à créer un monde harmonieux sur Terre, mais au détriment des humains, parce qu'ils absorbaient un peu leur personnalité et que les gens se rebellaient contre ce problème. Donc finalement... C'est indispensable pour moi. Par la suite, j'ai écrit surtout des romans qui se passent sur Terre, hein, et qui, justement, essayent de montrer, à partir d'une proposition très différente de ce qu'est le réel, une réalité différente, de façon à montrer comment, quels dangers on peut rencontrer dans l'avenir, et justement, montrer, surtout par exemple dans le dernier roman, Lothar Blues, que j'ai... Enfin, pas le dernier roman, mais enfin, l'un des derniers, qui est une sorte de suite de la trilogie L'Europe après la pluie, dans lequel je montre ce que peut donner le revenu universel et l'arrivée des robots. Et ça, je crois que c'est un roman que j'ai beaucoup travaillé et qui, finalement, est assez effervescent parce qu'il ne raconte pas que ça. Et c'est un peu l'inconvénient, peut-être, qu'on reproche à mes romans, c'est que, finalement, le sujet principal qui est toujours traité... et coupé par des insertions qui sont complètement surréalistes. Donc je ne peux pas me contenter d'écrire sur le réel, il faut aussi que j'invente quelque chose qui soit en dehors du réel. Et pour ça, donc, j'utilise, ça je le répète aussi éternellement, quand je suis dans un système un peu trop récitatif, c'est-à-dire qui essaie d'expliquer, et donc j'essaie d'expliquer le moins possible dans mes romans. J'essaie de le faire à travers l'action, à travers les dialogues, mais jamais dans des longs moments dans lesquels on explique dans quel monde on est, pourquoi on y est, comment ça se passe. Je veux que ça soit à travers les personnages qui sont en général porteurs d'idées. Donc Simon Briand reproche dans sa préface que les personnages n'aient pas de psychologie. Je lui ai reproché d'ailleurs de dire ça, parce qu'en réalité, ils sont... Bon, on part dans l'esprit que la science-fiction, au départ, ce sont des nouvelles. Hein. Pendant des années et des années, même les premiers romans de science-fiction écrits par Van Vogt, etc., c'est des accumulations de nouvelles. Demain, les chiens est une accumulation de nouvelles. Donc, une nouvelle, évidemment, n'a pas besoin de développer la psychologie des personnages, puisque c'est l'idée qui porte la nouvelle. Et donc, au départ, on dit, bon, on n'a pas besoin de science-fiction, on a besoin de psychologie dans la science-fiction, puisque finalement, c'est une littérature d'idées. Mais à partir du moment où on écrit des romans, il faut que les personnages prennent une consistance, sinon... Mais ils sont d'une part porteurs d'idées, puisqu'ils amènent justement le trajet de l'histoire à se développer, mais ils ont aussi une psychologie. Alors, Simon Briand disant que mes personnages n'ont pas de psychologie, je lui ai répondu, non, ils ont une psychologie, au contraire, simplement, ce sont des gens qui s'adaptent. Ce sont des personnages qui, effectivement, au début... En général, mes personnages ne sont pas très vaillants, ils sont pacifiques, ils sont très peu hargneux, et donc ils reçoivent le monde dans lequel ils arrivent comme un choc violent. Et donc, leur psychologie va être profondément modifiée. Et au cours du roman, ils vont développer une autre façon d'exister par rapport aux événements auxquels ils vont être confrontés. C'est pour ça que mes personnages, contrairement à ce que dit Sigmund Brian, ont une véritable psychologie. Simplement, c'est une psychologie qui évolue au fur et à mesure que le livre évolue. Voilà.
Moi, je suis d'accord, ils ont totalement une psychologie.
Oui, oui, absolument.
Tes personnages, ils incarnent pas, comme dans certains romans, c'est pas juste des incarnations d'une idée. Du coup, c'est pour ça que tu parles d'évolution. Quoi. On n'a pas la force, la féminité, j'en sais rien, enfin
oui.
Des choses comme ça. C'est beaucoup plus subtil. Après, j'ai l'impression, peu de monologue interne, enfin intérieur, c'est aussi ça qui veut dire.
Oui.
C'est que la psychologie, elle se voit par l'évolution.
Elle se voit par
l'extérieur, par ce qu'il fait, par ce qu'il faut et tout ça.
Voilà, c'est ça. Non, c'est ça, c'est pas évidemment des romans psychologiques au sens où l'entend les personnages. Bon. Même dans mes romans de littérature dit générale, c'est un peu la même chose. Donc, il y a quelqu'un, le personnage est confronté à quelque chose de terrifiant, sa femme disparaît dans une explosion, dans une galerie, et donc il va la chercher à travers Paris. Bon, mais on sait que ce sont des intraterrestres, c'est-à-dire des êtres de l'avenir qui vont envahir le présent parce que l'avenir est trop épouvantable pour pouvoir y vivre. Donc ils vont reculer dans le temps pour essayer d'y vivre. C'est eux qui vont créer cette transformation du monde.
Et justement, quel lien tu as, toi, en tant qu'auteur, en tant que démiurge, avec tes personnages? Moi, quand j'interview des auteurs, parfois, il y a des relations qui sont très proches. Ils s'incarnent presque des amis.
Oui.
Quel lien, toi, tu as?
Justement, là, on a eu une conversation avec Lionel Davoust et Andrevon sur leur façon d'écrire. Donc, tous les deux, et comme Kurt Steiner, André Ruellan, ils faisaient, sont des gens qui écrivent des synopsis à l'avance. Et à partir de ce synopsis, ils vont écrire des romans. Personnellement, moi, c'est exactement le contraire. Je pars avec une idée donc générale, c'est-à-dire le monde dans lequel ça va se passer, avec une idée de départ fondamentale, et je sais comment ça va se terminer. Et puis à partir de là, je crée des personnages qui vont permettre à l'histoire d'avancer, mais par contre, tous les événements qui vont se produire, je n'en ai aucune idée. Et donc, chaque matin, quand j'arrive dans ma machine à écrire, donc je sais que j'en suis la veille, je suis un peu comme Van Vogt, sauf que je ne me réveille pas trois fois dans la nuit pour essayer de poursuivre l'histoire, mais peut-être un peu moins maintenant, bien que je rêve toujours beaucoup, mais je rêve surtout d'Anne. Avant, vraiment, il y a encore 5-6 ans, quand j'écrivais la Tar Blues, j'arrivais, ça démarrait complètement. La suite de ce que j'avais écrit la veille était venue dans la nuit sans aucun problème. Je dois dire qu'à un moment, en ce moment, j'ai un peu plus de mal, et donc je suis un peu en train de réfléchir dans la journée à ce que je vais écrire le lendemain, ce qui ne m'était pas arrivé auparavant. Mais enfin, j'arrive quand même à écrire des romans qui tiennent encore le coup, j'espère. Voilà.
Il y a des personnages, enfin là je pense à évidemment pas les nuits de l'aviateur puisque
oui,
c'est toi.
Oui.
Mais dans Juste à temps, le personnage qui est un peu dans le cinéma, enfin qui a de la famille dans qui sont marchands d'art, enfin c'est quand même. Donc c'est des proches, là c'est carrément un parent.
Oui, c'est ça, c'est un parent.
C'est des avatars.
Ouais, c'est des avatars. Mais enfin, justement, la grande discussion, c'était, est-ce que les personnages vous échappent? Alors là, dans Andrevon et Lionel Davoust disaient, ah oui, mes personnages m'échappent. Moi, ils ne m'échappent jamais. Ouais. Non, parce que je sais qui ils sont depuis le départ et je ne veux pas qu'ils m'échappent. Je veux qu'ils restent tels que je veux les décrire. Et ça, je crois que jusqu'à présent, aucun personnage ne m'a échappé. L'histoire m'a échappé, mais pas les personnages.
Ça, c'est carré, c'est cadré. Si on reprend un petit peu le fil, on arrive aux années 90.
Voilà.
Donc, après le creux, après le creux. Un petit peu.
Voilà, donc là, on peut dire que c'était l'effet Marion Mazouric. Donc, il s'est trouvé que chez Gélu, une fois que Sadoul a abandonné, enfin, pour cause de retraite, la direction de Gélu, qu'il a d'ailleurs très très bien menée, surtout dans les premières années, lorsqu'il a publié des romans de science-fiction sans aucune spécification, si bien que les lecteurs, ne voyant absolument rien de particulier, les achetaient comme un roman de littérature générale. Bon, après, ils étaient peut-être un peu surpris, mais enfin, finalement, les ventes... D'ailleurs, je parlais des miennes, mais De Mute a vendu encore plus de Galaxial que moi. Je crois qu'il a vendu 150 000 exemplaires des Galaxial, le premier tome. Donc, c'était vraiment... Gérard Klein aussi, très bien vendu. Kurt Steiner aussi, enfin... Jury, non, Jury, je crois, n'est jamais paru chez J'ai lu, puisqu'il était happé par... par Guamard, qui l'avait emmené chez Presse Pocket. Et donc, quand Maria Mazurik est arrivée, donc, elle a dit, bon, là, on se pose devant un problème. Elle aimait ça, elle aimait la science-fiction, mais il n'y avait plus d'auteurs. Enfin, il y avait les vieux qu'elle ne voulait certainement pas prendre, parce qu'elle voulait faire un coup médiatique. Donc, elle a pris des jeunes auteurs. Donc, il y avait, à ce moment-là, Heyerdahl, il y avait... qu'est-ce qu'il y a, Bordage, il y avait Ligny, il y avait...
Ligny, c'était déjà un ancien.
Ligny, oui, c'était un ancien, parce que c'était quand même un de ceux qui, avec Brussolo, était venu dans mon...
Oui,
dans
mon, dans, oui, quand même.
Non, c'était quand même...
Nouvelle Voix, non, j'y étais, en plus, j'ai vendu.
Nouveau Millénaire, non.
Non, c'était en poche, d'abord.
Mais je pense que là, on est après.
Oui, on est après, là. Millénaire, c'est plus tard.
Millénaire, c'est après, c'est pour ça, là, c'est le poche, c'est Angélu.
Oui, c'est Angélu, purement.
C'est les années 90, donc c'est une nouvelle quelque chose, ouais.
Ah ouais. Oui, non, c'est...
Voilà, c'est... donc c'est là, elle a donc aggloméré tous ses auteurs.
Déjà, tu vois, c'est Demain une oasis, elle a mis à Houellebecq, hein, Les particules élémentaires.
Oui. Donc là, finalement, elle a réussi son coup, parce que finalement, elle a réussi aussi à... avoir enfin des critiques dans des journaux, parce que il faut bien dire que depuis que j'étais parti du Monde, finalement, donc il restait comme critique Baudou au Monde, hein, pendant pas mal d'années, moi au magazine littéraire, peut-être un peu Joël Vintrebert dans un journal de BD, je ne me souviens plus lequel, et puis Andrevon et Claude Eken dans l'écran fantastique. Mais c'était tout ce qu'il y avait. Dans les journaux normaux, dits normaux, il n'y avait rien du tout. Par exemple, quand j'ai fait un article sur la science-fiction dans Le Point, il y a quelques années, la rédactrice en chef m'a dit « Écoutez, c'est la première fois qu'on parle de la science-fiction dans Le Point, alors je veux que vous en fassiez Le Point. » Dans l'Express, il n'y a pratiquement jamais rien. Dans le Nouvel Obs, alors là, vraiment, il déteste ça, il y a eu juste... Philippe Hupp, qui pendant des années, comme il était ami avec la personne qui s'occupait des pages de la fin, réussissait une fois, trois, quatre fois par an à parler d'un roman de science-fiction. En dehors de ça, il n'y a jamais eu une critique de fond, sauf de Houellebecq. Bon, parce que c'est ça la chose étrange. C'est, par exemple, Robert Merle, Houellebecq et quelques autres ont écrit des romans de science-fiction qui ont été traités comme des romans tout à fait normaux. Et je ne sais pas où se situe la différence. C'est parce que moi, j'ai toujours essayé justement de ne pas être un auteur de science-fiction et de publier dans les collections normales. Je n'y suis jamais parvenu. Il doit y avoir quelque chose qui change dans l'appréhension par l'éditeur du livre qui lui donne le fait que ça provoque chez lui une répulsion. Et parce que je crois quand même que franchement, le lecteur de science-fiction, c'est quelqu'un de particulier, malgré tout, on peut le dire. Il y a ceux qui, tout d'un coup, ressentent un choc parce que le roman leur dit quelque chose et leur parle. Mais la plupart du temps, très rapidement, ils évacuent parce qu'ils sont dans un monde qu'ils ne comprennent pas et ils ne font pas l'effort nécessaire qu'il doit être, c'est-à-dire se laisser porter par l'histoire qui paraît totalement déraisonnable jusqu'au moment où on comprend enfin pourquoi... elle est là. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire. Et donc, je crois quand même, en rencontrant beaucoup de fans, etc., que c'est profondément ancré en eux, quoi. Et que, dans les années 50, il y avait quand même beaucoup de gens qui aimaient justement ces rapports entre la science et la fiction, et qui étaient totalement favorables à ce genre de littérature. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des problèmes terribles en France, les gens ne se sont plus occupés que d'une chose, c'est leur avenir immédiat. Et donc, s'occupant de leur avenir immédiat, surtout actuellement avec le terrorisme, avec toutes sortes de choses, avec la crise qui s'est passée, qui a rappelé l'année de ma naissance, les gens ne s'occupent plus du tout, les médias ne s'intéressent qu'à là, au réel, le plus immédiat. Et donc, la science-fiction, ça leur apparaît comme quelque chose de véritablement horrible. D'ailleurs, maintenant, par exemple, l'auteur, le créateur de la Tesla, la voiture électrique, veut faire des fusées qui vont partir vers Mars en 2024. Il veut faire des avions, qui est un vieux projet, des avions qui montent comme fusées qui retombent en une demi-heure à New York. Et c'est très bizarre. Là, les journalistes disent « ça n'est plus de la science-fiction ». Donc c'est très curieux. Quand c'était dans ce genre, c'est de la science-fiction avec un mépris total, et après, ça n'est plus de la science-fiction, c'est leur bonheur. Enfin, ils sont libérés de cette horrible chose qui est la science-fiction. Mais je ne mens pas, si vous lisez la presse dans son ensemble, les journalistes sont contre la science-fiction, ils détestent ça, véritablement. D'ailleurs, dans l'ensemble, il faut bien dire que les Français n'aiment pas beaucoup le fantastique, n'aiment pas énormément tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, puisqu'on dit toujours qu'ils sont cartésiens, qu'ils sont rationalistes. Or, la science-fiction est rationaliste, quoi qu'ils en disent.
Ouais, est-ce que t'as pas l'impression que c'est quand même une espèce de malentendu?
Parce voilà, c'est un malentendu, c'est un malentendu profond.
La SF parle d'aujourd'hui, c'est assez clair, quoi.
Ouais. Et alors là, donc, finalement, donc, ça a bien réussi, ce qu'a fait Marion Mazurik. En plus, elle a créé après une collection de livres... comment on appelle ça, normaux,
non format
normal, nouveau millénaire, plutôt c'est le millénaire. Bon, ça n'a pas très bien marché, et donc finalement, toute son expérience, qui a été très, très réussie sur le plan médiatique, n'a pas été extrêmement réussie sur le plan économique, si bien qu'elle est partie de J'ai lu pour créer sa propre maison d'édition, où là, finalement, elle a utilisé les auteurs qui fonctionnaient, comme Bordage et Ayerdal, et en laissant tous les autres tomber. Puisque, finalement, elle a publié un de mes romans, quand même, dans Millénaire, même, elle pensait prendre le second, et donc elle a lu ce roman à Saint-Domingue, donc elle avait le manuscrit en elle, elle faisait du cheval, parce que Marion Mazurik faisait beaucoup de cheval, et elle aime le taureau. Et donc elle disait, c'est magnifique, je traverse Saint-Domingue en lisant ton roman, je jette les pages une à une depuis mon cheval. et alors c'est très curieux parce qu'elle m'avait posé la question, elle m'a dit, mais comment ça se fait que toi, un auteur comme toi, tu me proposes un roman? Elle était étonnée. Et finalement, c'est la raison pour laquelle elle n'était pas venue vers les anciens auteurs, c'est parce qu'elle pensait qu'ils refuseraient. Et donc ça n'a pas été le cas.
Ça, c'est... Donc, on arrive aux années 2000, Frémissement, nouveaux auteurs, Lothar Blues en 2008,
oui.
Retour...
Retour à...
Chez Ailleurs et Demain.
Ah oui. Retour Ailleurs et Demain. Oui, ça a été absolument extraordinaire, parce que j'ai... Donc, je peux dire que mes rapports avec Gérard Klein n'étaient plus aussi bons qu'ils étaient jadis. Et donc, quand je lui ai proposé ce roman, finalement... il l'a pris contre lui-même, parce que finalement, depuis 1985, et là on était en 2005, c'est-à-dire pendant 20 ans, il n'est plus publié un seul auteur français, à partir du moment où il a cessé d'écrire lui-même. Et là donc, ça lui a redonné le goût, il s'est republié lui-même d'ailleurs, et il a republié un ou deux romans de jury.
Il est fait un francophone quand même, il y avait Panchard.
Oui, aussi Panchard, oui.
C'est oui. Pas français, mais c'est...
Oui, moi, c'est aussi à partir de cette...
Oui, c'est la même période.
Oui, la même période.
2004,
même période.
Oui, tout à
fait. Et ça, je dois dire, c'est pour ça que je ne me dément pas. J'ai écrit une préface pour justement une anthologie de Comballo qui n'est jamais parue, et qui, justement, dans lequel je dis fermement que c'est un peu à cause de Guamard et à cause de Gérard Klein que la science-fiction française est tombée si bas. Parce que finalement... Quand Guamard a pris la collection Press Pocket, donc il m'a attiré vers lui, en même temps que Brussolo, que Jury, etc. Et le directeur commercial, je ne dis pas que c'était la faute de Guamard, publiait 30 000 volumes en poche américains et 15 000 en français. Et après, on disait les Français se vendent moins que les Américains. Donc c'était normal, la diffusion était de moitié. Donc à partir de là, l'idée que les auteurs français ne se vendaient pas est ancrée dans l'esprit des éditeurs. Et ça, ça a été gravissime quand même. Et donc, en plus, donc, il y a eu ça de la part de Goimard, qui a fini par adopter la position de son directeur commercial. Et en plus, Gérard Klein s'est arrêté de publier des auteurs français. Donc il n'y a eu plus qu'Elisabeth Gilles, heureusement, qui était là, qui a été magnifique, qui a fait un travail superbe, qui a permis à des quantités de jeunes auteurs de gagner leur galon dans le domaine de la science-fiction. Et ça a été vraiment formidable parce qu'elle a permis à Walter, elle a permis à Ligny, elle a permis à Brussolo, elle a permis à Andrevon, elle a permis à tout le monde, tous les gens qui aujourd'hui comptent de la science-fiction française, c'est elle qui les a finalement lancés. Quoi.
Mais justement, Présence du futur, ça s'est arrêté quand?
Bah, ça s'est arrêté là, tout récemment.
2000, hein. Donc c'est au moment où...
C'est-à-dire qu'après, enfin, si tu veux...
Enfin, oui, c'est ça, ça doit être 2000.
Oui, c'est-à-dire que oui, à partir du moment où elle est partie, c'est Jacques Chambon qui a pris le truc.
J'ai commencé un peu après Jacques Chambon, il était en 2000 déjà, j'ai commencé, il était déjà plus
haut. Oui, donc là, il est parti chez Flammarion, ouais. Et donc il a été remplacé brièvement par Brussolo qui n'a pas fait grand-chose, et à ce moment-là, c'est Gilles Dumay qui est arrivé, qui a fait l'une... qui a balayé la collection.
C'est pas lui, mais c'est Gallimard qui a intégré, qui a créé Folio Science-Fiction, qui a intégré...
Voilà, c'est ça. Voilà, parce que c'était la vieille idée. Parce que Antoine, donc, oui. Je reviens à Antoine, donc il avait raté, il avait raté son projet, et depuis toujours, Elisabeth Gilles me disait, il cherche à prendre ma collection. Et moi, elle a lutté pendant tout le temps où elle était là, contre le fait que Gallimard reprenne... Et donc, quand elle est partie et que Jacques Chambon est parti, Antoine s'est précipité et a enfin pu faire sa collection de science-fiction.
Et à ces époques-là, on ne te retrouve pas, toi, dans Anticipation, justement, où bouillonnent Ligny, Wagner, Enco.
Non. Non, là, je ne sais pas, il y a eu une sorte de séparation. Mais c'est très curieux parce qu'il faut bien dire que ces jeunes auteurs, finalement, ne me lisaient pas. Du tout. Il y avait une fracture, sauf naturellement, sauf Lehmann, qui lui me lisait, et Gilles Dumay qui a même publié trois de mes nouvelles quand il était au début du Bélial, dans l'avant Bélial. Et donc eux deux appréciaient ce que j'écrivais. Après j'ai appris qu'Ayerdal avait lu Cette chère humanité et que finalement il était complètement en accord avec moi. Ligny me lisait aussi, sauf Bordage, qui lui, paraît-il, ne lit rien. Mais ça, je n'y peux
rien. Oui, il a dit avec toi une table ronde.
Oui, oui.
Il ne lit pas beaucoup les autres.
Non, il ne lit pas beaucoup les autres.
Pas...
Voilà.
C'est pas toi qui es en question.
Hein. Non, c'est pas moi qui suis en question. Voilà.
Donc tu vois un renouveau après.
Donc alors à ce moment-là, ça c'est quand même pas.
Oui, enfin, s'il y a quelque chose qui se passe ou.
Bah, il ne se passe plus grand-chose, il faut bien dire. Là, on peut dire que bon, l'une d'encre. A quand même, grâce à Gilles Dumay, permis l'éclosion de quelques auteurs. Hein. Ça a été quand même pas mal, de ce point de vue-là. Et à part ça, dans les autres collections, on ne voit rien paraître. Dans J'ai lu, ils reprennent les vieilles lunes. Dans la collection du Fleuve Noir, ils n'ont pas pris grand-chose non plus que les auteurs américains. Donc on a été très mal parti de ce point de vue-là. Heureusement que Mathias Echener est arrivé.
Non, mais en fait, il y a 20 ans, il y a eu Diable Vauvert, mais elle a fait effectivement peu de science-fiction, là, elle s'y remet, mais
oui,
elle
a pris
à Yandal et à Bordage, mais elle a acheté quelques auteurs étrangers. Enfin,
oui, parce que...
pas des grands auteurs, hein, Bassi Galoupi, mais en français, pas beaucoup.
Non, et par exemple, moi, je lui avais envoyé, alors qu'elle m'avait envoyé cette lettre absolument bouleversante sur le premier roman, là, elle n'a même pas lu le roman que je lui avais envoyé, elle l'a fait lire par quelqu'un de la maison.
Elle est devenue grande, oui. Donc, ça doit être il y a 20 ans. En 2004, il y a Il y a donc la création de la Volt et des moutons électriques.
Les moutons électriques.
Actu SF, c'est un peu.
Non, ça sera un peu plus tard.
C'est après.
Non,
mais
des balbutions.
Il y a d'autres petites maisons, quoi.
De toutes petites maisons.
Alors, en création, il y a peut-être des choses, peut-être après en audience.
Et puis, on peut dire aussi, quand même, qu'il y a eu le coup de massue de la fantasy.
Hein,
c'est ça le problème. À partir du moment où. Parce que, curieusement. Alors que toute la société actuelle est complètement braquée sur le réel, la fantaisie, elle, ne les dérange pas, parce que ça part dans un monde complètement imaginaire. Donc, quand on est ancré dans le réel, on peut très bien aller dans une imagination à base de dragons, d'elfes et de fées, et là, ça ne dérange personne. Par contre, quand on raconte ce qui peut se passer quand les robots vont commencer à exister réellement, quand toute la société va être prise en main par la mondialisation, et bien là, les gens reculent devant ce genre de livre, et c'est pour ça que la science-fiction a beaucoup de mal à s'imposer. Il semblerait qu'actuellement, il y ait un léger retour, d'après certaines personnes qui me disent que ça fonctionne un peu mieux qu'avant, mais enfin, là, je n'en suis pas encore sûr.
Et le fait de voir... Alors... Toi, en tant que critique et en tant qu'auteur, quand tu vois par exemple que Marie Dariussecq vient de publier un roman de science-fiction, c'est pas nouveau, c'était la littérature générale qui s'empare des codes de la SF. Comment est-ce que toi tu regardais ça et tu le regardes?
C'est un peu ce que je disais dans l'entretien que j'avais eu avec Frédéric Roussel pour Libération, c'est que moi, la science-fiction est arrivée au point où je souhaitais, c'est-à-dire qu'elle se noie dans la littérature générale, donc c'est une école de science-fiction qui. Clandestine qui est née et qui se répand partout. Parce qu'aujourd'hui, la science-fiction, elle est partout. Alors en plus, il y a une dichotomie totale entre le cinéma de science-fiction qui a un succès considérable auprès d'un certain public, et ce public-là ne lit pas de science-fiction, ou presque pas. Puisque finalement, si on compare les 500 000 entrées d'un blockbuster de science-fiction et les 450 exemplaires d'un roman de science-fiction, chez un petit éditeur, c'est vraiment effrayant. Parce qu'il y a une chose terrible, c'est que, enfin, personnellement, aux Imaginales, par exemple, l'année dernière, j'y avais été, donc c'est immense, et là, j'étais stupéfait, parce que, bon, il y a beaucoup de petits éditeurs qui s'auto-éditent ou éditent de la fantaisie. Mais il y en a aussi qui éditent de la science-fiction. Là, tout à l'heure, je vous en ai montré un, et là, c'était la même chose aux Aventuriales. Il y a plein de gens qui, finalement, maintenant, c'est assez facile de faire un livre, ou alors le faire imprimer à peu de frais, multiplient des... Alors là, disons, pour moi, ça remplace la pensée universelle. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait la pensée universelle qui disait « Venez chez moi, je vous édite ». Donc les pauvres malheureux auteurs qui étaient refusés par tout le monde arrivaient à la pensée universelle. On leur disait « Voilà, c'est 5000 francs à l'époque ». Et ils disaient « Ah, quel bonheur ». Et donc, ils payaient 5000 francs, ils étaient édités, après on leur donnait leur pile de livres, et ils étaient diffusés nulle part. Et donc, ces genres de nouveaux éditeurs, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que maintenant, ce sont des gens qui sont refusés partout, et qui se publient eux-mêmes, et donc, à ce moment-là, finalement, ça fait, il y avait, je ne sais pas combien, moi, 70 éditeurs qui vendaient des livres d'eux-mêmes ou de leurs amis.
Est-ce que tu as vu une évolution dans les thématiques de la science-fiction entre ce que tu lis aujourd'hui et ce que tu lisais avant?
C'est-à-dire, je crois, surtout, c'est à travers les auteurs. C'est-à-dire que, par exemple, on peut dire que Lehmann a eu sa propre thématique, bien qu'il ait essayé de se fondre dans la science-fiction générale par les trois romans qu'il avait écrits, qui d'ailleurs ont été fatales pour lui, d'ailleurs. Mais on peut dire que Heyerdahl, donc, a son style propre et écrit ses romans, que Ligny, de la même façon, écrit ses romans, Bordage aussi, moi aussi. Et donc je crois que finalement, la science-fiction, c'est devenu l'apanage d'un auteur. Sinon, on va se retrouver dans la science-fiction américaine, qui publie un nombre considérable de space opéras. C'est surtout là que se trouve la science-fiction. Finalement, en dehors de quelques auteurs de grand talent, comme Christopher Priest, ou Stephen Baxter. Alors évidemment, Stephen Baxter, je viens d'en lire un tout à fait par hasard, je passais dans ma bibliothèque, tout d'un coup je vois Espace, tiens, dis, j'ai pas celui-là, et pour moi, Évolution de Stephen Baxter est un des plus beaux livres de science-fiction que j'ai lu de ma vie. Et donc j'ai lu ça. Et alors là, c'est un truc absolument incroyable, c'est là où on voit que le traitement de texte a complètement changé la façon d'écrire des écrivains, c'est que d'ailleurs lui le dit lui-même, certains passages de ce roman peuvent se retrouver dans des nouvelles que j'ai écrites ailleurs, mais c'est complètement différent. Or, il se trouve que maintenant que les auteurs américains écrivent des pages, et puis après, ils écrivent un roman. Et là, tout d'un coup, tiens, là, j'ai des pages qui pourraient très bien rentrer là-dedans. Ils les mettent là-dedans, avec la machine à traitement de texte, ils mélangent tout ça. Et finalement, ce roman Espace, c'est assez extraordinaire. Je vais écrire un texte là-dessus, parce que c'est fascinant, parce que vraiment, on appelle ça de la hard science, parce qu'évidemment, Stephen Baxter a une bonne connaissance des choses, mais enfin, ce qu'il raconte est complètement déraisonnable, c'est complètement fou. Il a des personnages de vieillards qui jurent qu'ils ont 1857 ans, et c'est vraiment hallucinant à lire, parce qu'il y a quatre parties, finalement, et qui se mélangent plus ou moins, comme ça, et alors, il arrive à la fin, c'est majestueux, là, il est dans un espace d'espace complètement dément, et là, je dois dire que j'ai été totalement surpris. Mais moi, personnellement, je trouve que il y a une telle imagination dans ce roman que finalement, malgré ses défauts complètement inhérents à la construction, finalement, il y a peu d'auteurs qui peuvent arriver à sa cheville. Bon, il y a aussi Wilson, Charles Wilson. Il y a quand même pas mal d'auteurs de ce genre qui écrivent quand même de beaux romans, quoi.
Toi, dans la méthode de travail, ça a évolué ?
Oui, mais c'est-à-dire qu'évidemment, bon, je disais ça par rapport à Andrevon et à Lionel Davoust, qui eux font un synopsis, et comme Ruelland aussi, eux, ils écrivaient, et chaque ligne était écrite. Andrevon me dit, je ne réécris jamais rien, Davoust non plus. André, pour lui, comme je le disais tout à l'heure, c'est une ligne écrite, c'était tant de centimes. Moi, au contraire, cette chère humanité, j'ai 5 exemplaires de cette chère humanité, qui fait quand même, je crois, 500-600 pages, écrit, tapé à la machine. C'est-à-dire que j'ai réécrit tout le temps. Alors évidemment, avec le traitement de texte, j'ai été sauvé, et il faut bien dire que c'est pour ça que je suis pratiquement le premier auteur français, même de la littérature générale, à avoir utilisé, puisqu'en 83, j'avais un traitement de texte, et là, vraiment, personne n'en avait. Donc j'ai vu que c'était merveilleux, puisque on pouvait modeler complètement la littérature, et ça devenait de la matière plastique. D'ailleurs, j'avais fait avec un petit éditeur d'Angers, dans la grande librairie d'Angers, à la fête du livre, j'avais donc un grand écran, comme ça, devant moi, et un petit traitement de texte. Et là, j'écrivais une nouvelle que je n'avais pas devant les gens. Et donc les gens passaient et voyaient le texte changer, et finalement, ça a beaucoup intéressé. J'ai beaucoup regretté de ne pas recommencer cette expérience, parce que c'était assez extraordinaire de voir des gens qui voyaient le texte. Alors, ils étaient fascinés, ils voyaient le texte changer, avancer, ils voyaient l'histoire avancer, repasser de temps en temps. Et après, j'avais mon ami qui était à côté de moi, qui avait un système automatique, et donc il a publié la nouvelle à 50 exemplaires, et là, ça a été vendu à tout le monde autour.
et sur l'élan créateur, sur le... Tu écris encore, c'est toujours la même impulsion?
Ah oui, c'est toujours la même impulsion. Bauf que je dis maintenant, je suis quand même dans la position des autres où je suis presque en train d'établir des synopsis. Sauf que je sais que ce synopsis ne sera pas... D'ailleurs, finalement, je prends pas mal de notes. Et je retrouve des notes à propos des derniers romans que j'ai écrits qui n'ont strictement aucun rapport avec le roman que j'ai écrit, dans lequel il y a plein d'idées dont j'aurais pu écrire un autre roman. Et là, c'est très étrange, donc je suis assez content de le voir. Alors finalement, je replonge, parce que dans tous mes ordinateurs, il y a toutes sortes d'idées que j'ai faites accumuler depuis 50 ans. Et là, bon, alors, il y a des nouvelles qui me semblent, bon, complètement... ou des romans dont le sujet me paraît complètement hors de l'époque. Mais quand je retrouve une idée qui peut fonctionner, à ce moment-là, je me dis, tiens... Parce que finalement... Toujours au cours de mon itinéraire, j'ai toujours écrit des nouvelles au milieu des romans. Parce que c'est une espèce de moment de stase. Alors, j'étais arrivé à un point où il fallait que mon imagination travaille pour arriver justement à la fin que je m'étais fixé. Parce que finalement, j'arrivais à un point où j'étais tellement en décalage par rapport à la fin que j'avais projetée que je voulais absolument pas que ça s'en aille. Je voulais pas que le personnage m'échappe, ni que mon histoire m'échappe. Et donc je m'arrêtais, j'écrivais des nouvelles, et puis après je reprenais le roman. Donc c'est pour ça que j'ai écrit des nouvelles au cours de... Et donc je retrouve dans mes ordinateurs toutes sortes de vieilles idées, que je reprendrai ou pas. Enfin bon, vu le nombre d'années qui me reste à vivre, bon, il me reste peut-être que... Il y en aura quelques-unes.
On va parler du recueil de nouvelles, donc du coup là on revient à l'actu, hein,
oui.
Recueil de nouvelles qui paraît à la Volpe. Comment est-ce que, donc on en parlait tout à l'heure sur 40 ans, quand même, de 75 à quasiment aujourd'hui, comment est-ce que vous les avez choisis ensemble, entre Richard Combalot et vous deux, comment ça s'est fait, comment t'as fait le sommaire, quoi.
Voilà, bon, de toute façon moi j'avais une idée préconçue sur un certain nombre de nouvelles que je voulais absolument qu'elle soit dans ce recueil. Combalot, lui, a été son travail tout à fait à part, sans influence ni de Mathias ni la mienne. Et il a amené quelque chose dans lequel il faut dire qu'il y a à peu près 60 à 70% des nouvelles que j'aurais mises. Donc il restait un certain nombre de nouvelles que je voulais mettre. Donc à ce moment-là, je lui ai envoyé la liste de ce que je voulais rajouter. Et là, pour lui, alors la plupart de ces nouvelles, c'était vraiment hors de propos. Donc, j'ai fini par le convaincre pour certaines d'entre elles. Et puis, donc, j'ai envoyé la totalité de mon projet, y compris les nouvelles de Combalot, choisies par Combalot, et les nouvelles que je comptais y mettre. Sauf une ou deux que j'avais évacuées, soi-disant d'ailleurs, dans ce qu'il explique dans sa postface, pour lesquels il les a éliminés, mais enfin, à mon avis, ce sont de mauvaises raisons. Enfin, c'est pas grave.
L'idée, c'est de faire une sorte de best-of.
Voilà. Bon, je déteste ce mot, mais enfin... Bon.
Moi, je disais... Pardon, excuse-moi. L'idée, c'était de faire un best-of dans l'idée de Richard Combalot. C'était ça. Sachant qu'il y a eu déjà un livre d'or...
Voilà, qu'il y a eu un livre d'or, oui, voilà.
Donc, déjà un best-of, alors qu'il était il y a 20 ans.
Oui, il n'y a pas 20 ans, c'est dans les années 70. Aussi.
Voilà, donc il y avait ça. Donc, quelque part, plutôt que dire best-of, déjà, c'est pas beau, c'est effectivement voir. Il a travaillé sur 150 nouvelles, au moins.
Oui, 150 nouvelles.
Richard.
Oui.
Et c'est d'avoir vraiment toutes les palettes, bon, les meilleures nouvelles, et toute la palette. La palette des préoccupations ou de la littérature.
Oui, justement, c'est un peu ça qui est la divergence profonde. La divergence profonde, c'est que finalement, Combalot, lui, était tourné vers la science-fiction. Or, j'ai écrit des nouvelles qui sont à la limite de la science-fiction, qui sont de la fiction spéculative. Il faut bien dire qu'en réalité, moi, ce que j'écris, c'est de la fiction spéculative. Bon, c'est un mot qui n'est pas extrêmement évocateur pour la plupart des gens. Donc c'est pour ça que finalement il retombe dans l'oubli. Et donc ça, il avait pu complètement évacuer ses nouvelles. Donc c'est celle-là surtout que j'ai réintégrée. Si, puisque finalement...
Oui, il y a ça.
Hein, oui, c'est ça.
Enfin bon, en tout cas, c'est un travail à trois.
Donc à ce moment-là, voilà. Mathias a lu l'ensemble et finalement a soutenu un certain nombre. On a évacué quelques-unes. Toutes celles alors qui n'étaient vraiment pas de la science-fiction, qui étaient de la spéculation pure. Donc toutes ces nouvelles qui sont parues dans la revue de Beaubourg qui s'appelait Traverse, et donc qui sont des nouvelles plutôt d'humour noir et complètement absurdes. Voilà.
Alors du coup, quelles sont les thématiques qu'on retrouve dans le recueil?
Alors là, donc il y a toutes les thématiques. Donc absolument toutes les thématiques. Finalement, l'apport de Combalot était important, c'est-à-dire qu'il a repris toutes les nouvelles qui ne sont pas parues en recueil, qui sont parues dans Bifrost ou dans Galaxy, et qui donc finalement ont été lues par les lecteurs de ces deux revues, mais qui n'ont pas eu d'autres répercussions. Il en a repris aussi très peu de mon recueil précédent, donc ça, qui est donc... qui était paru donc chez Flammarion sous l'égide de Jacques Chambon, Rasta Solitude.
Donc je crois que le précédent précédent c'était L'homme qui s'arrêta à la Volpe.
Voilà.
On n'allait pas reprendre, on a repris L'homme qui s'arrêta.
Donc il y a une.
Mais effectivement, on aurait bien voulu en reprendre une autre. Donc il y a des fois des contraintes, mais plutôt que parler des contraintes, il faut parler des.
En réalité, il y a une nouvelle de L'homme qui s'arrêta et une nouvelle de Rasta Solitude. Voilà. Et donc deux nouvelles du livre d'or. Voilà. tout le reste est...
Donc il y a un itinéraire, on n'a pas découpé par thématique, ça c'est sûr, mais il y a un itinéraire...
C'est un itinéraire mental, voilà.
Oui, c'est-à-dire, on est du moins... On est dans quelque chose de un peu fantastique ou très ancré sur la Terre, au départ.
Oui.
On a un passage par... quand même, il y a certaines nouvelles d'humour noir, enfin, qui sont du pur surréalisme.
Oui, oui.
Ouais, donc, vraiment, là, des nouvelles inclassables que je trouve très drôles. Et puis, on va de plus en plus loin. Après, on s'éloigne de la Terre. On a
de plus en plus vers la science-fiction.
Voilà, absolument. Et les thématiques, quand moi, j'ai lu ça, mais alors, ça va faire réagir Philippe, je trouvais que ça tournait beaucoup, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai ressenti, sur la finitude de l'homme, sur la mort. La disparition, et en même temps je me disais mais la science-fiction c'est beaucoup ça quand même, c'est comment l'homme ou l'humanité se prolonge,
c'est
incroyable, mais là vraiment ça prenait tout son
ça prenait tout son sens, c'est pour ça qu'il y avait donc l'homme qui s'arrêta qui était uniquement basé sur la mort, puisque au début ça s'appelait Journaux Ultimes, puisque c'était d'ailleurs c'est le sous-titre, puisque c'était dans l'esprit justement d'à partir d'une première nouvelle que j'avais écrite il y a fort longtemps, quand Anne avait eu un cancer du sein, donc j'étais tout seul dans ma rue de paradis où j'avais un jardin autour de moi, donc j'étais hors du monde, dans un état d'hébétude absolument effroyable, de tristesse et d'anxiété. Et donc j'ai écrit cette nouvelle que d'ailleurs Gilles Dumais a reprise, et à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais écrire toute une suite de nouvelles dans lesquelles justement ça traite de la mort de quelqu'un. Alors, soit c'est raconté par quelqu'un, soit c'est le personnage lui-même qui va raconter sa mort. Voilà. Mais enfin, bon, on peut dire que dans l'ensemble, malgré tout, ça n'est pas le sujet principal de toutes ces nouvelles.
Non, bien sûr, non, mais c'est bien pas la mort, c'est vraiment... oui, c'est l'humanité, c'est l'avenir, voilà. Et puis le titre, qui est le titre d'une des nouvelles, on est bien seul dans l'univers.
Voilà.
C'est en même temps ça peut être désespérant, en même temps c'est un clin d'œil.
Oui, c'est un clin d'œil. Voilà. Et puis après, donc il y a une chose qui est très importante chez moi, c'est la photo. Donc j'ai été photographe, je fais beaucoup d'images, et donc il y a beaucoup de nouvelles qui sont basées sur la photo, sur l'image. J'avais eu dans l'idée d'ailleurs dans ces collages, c'est-à-dire de faire le collage d'abord et d'écrire à partir de là. Et je me suis rendu compte que finalement, une fois que le collage était terminé, c'était absurde puisque ce collage était une nouvelle en soi. Puisqu'à partir de ça, on pouvait voir toute l'histoire était écrite. Donc à la réécrire après, c'était absurde. Donc voilà, j'ai continué d'écrire des nouvelles et à faire des collages et des romans. Voilà.
Est-ce que tu te relis facilement, là, pour choisir les nouvelles, quel rapport tu as avec tes textes passés?
Dans l'ensemble, il faut bien dire, c'est assez répugnant. J'aime tout ce que je fais. Non. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les critiques que j'ai eues, dont je parlais tout à l'heure, c'est que finalement, d'une part, j'ai jamais eu de problème pour proposer un roman. Chaque fois que j'en ai proposé un, on me l'a pris. Hein. Les nouvelles, ça a toujours été le cas. Quelle est l'exception? Bon, il y a peut-être... Oui, donc l'exception, c'est justement d'essayer de faire passer une nouvelle, un roman de science-fiction dans la littérature générale. Hein. C'est le seul problème que j'ai eu.
Dernière petite question, parce que ça fait déjà une bonne heure et demie. Pourquoi, sur quoi tu travailles maintenant? Quels sont tes projets et tes envies?
Ben, d'ailleurs, il y a un roman qui est terminé. Et donc en réalité, bon, actuellement, je suis plutôt dans la mort de ma femme, toute récente. Et tout ce que j'écris, c'est à peu près un hommage à elle. C'est elle qui m'inspire. Donc, j'avais commencé à écrire juste avant sa mort un roman sur l'art. Et donc j'avais écrit toute une première partie partout d'un personnage qui se faisait greffer une puce dans son cerveau et qui faisait un roblog, c'est-à-dire un blog en forme de roman. Et donc qui racontait tout ce qui lui arrivait dans la vie et c'était des choses assez bizarres. Mais tout à fait en rapport avec l'art. Donc ça évoluait très lentement, parce que finalement c'était quelqu'un qui était furieux parce qu'il était prof à l'origine et qu'il était parti de l'éducation nationale en congé illimité mais sans démissionner, parce que ses élèves Drancy ne voulait plus passer, entendre parler du passé composé, des accords du participe. Donc finalement, il était extrêmement écœuré par cette horreur qui était en train d'arriver dans l'écriture. Et donc, il avait décidé d'écrire un peu comme ils auraient essayé d'écrire. Donc, j'ai fait une première version qui est complètement écrite un peu dans cet esprit-là. Mais en la relisant, je me suis rendu compte que je n'avais pas été assez sérieux. C'est-à-dire que j'aurais dû prendre vraiment un parti pris et le maintenir jusqu'au bout. Or là, il y a des passages qui sont normaux, d'autres ils ne sont pas. Certains personnages auraient dû parler. Donc Anne avait lu cette première partie. Elle m'avait dit, oui, il y a une chose qui ne va pas, c'est que les personnages qui ne sont pas dans iCortex, ils devraient parler normalement. J'ai dit non, puisque c'est le personnage qui raconte l'histoire. Donc là, on était dans... Donc finalement, j'ai abandonné parce que c'était pas possible, c'était mal foutu. Donc j'ai réécrit en laissant quand même une écriture différente, ce que je l'ai fait lire quand même à plusieurs personnes qui m'a dit non, évidemment, c'est pas exactement la même écriture que tu as fait d'habitude. Et puis après, donc, on venait de Venise quand Anne est morte, on était à la Biennale, donc on est revenu le 15, elle est morte le 16. Et donc je me dis, bon, la suite va se passer à Venise, puisque bon, il y a la Biennale. Et puis il y a un peintre maudit à l'intérieur, qui est un personnage extrêmement bizarre, extrêmement dangereux, qui va inventer l'art terroriste. Et donc là, toute la fin se passe. Et aussi, c'est une espèce de réplique à La forteresse de coton, qui aussi a été un des premiers romans, qui aussi était un hommage à Anne, puisque je venais de la rencontrer. Et un petit bout de temps déjà, mais enfin. Et donc c'était aussi toute l'émotion que j'avais. Donc c'est aussi un retour à Venise. Un retour à La forteresse de coton, sauf que c'est à la fois... C'est un roman à peu près inclassable, parce que ça n'est ni de la science-fiction, ni du fantastique, c'est vraiment de la fiction spéculative. Et en même temps, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup...
C'est une comédie en même temps.
Il y a beaucoup de comédie, il y a beaucoup de... Enfin, je crois qu'il y a beaucoup d'imagination. Peut-être trop.
C'est très drôle.
Quelque chose à ajouter, Mathias ?
Non. Peut-être que Philippe pourra donner un mot, mais peut-être que ça ne viendra pas comme ça. Ça m'a beaucoup fait rire récemment où vous étiez avec les 42 en train de dire, ah oui, on a une nouvelle façon de définir la science-fiction. Parce que la science-fiction, là tu en as parlé,
oui.
Tu préfères le mot fiction spéculative, oui. Mais on est obligé de parler de science-fiction parce que c'est ce que les gens connaissent. Bon. Mais quelque part, je t'ai entendu aussi faire une conférence où tu as expliqué... Quatre définitions de la science-fiction différentes.
Oui.
Et aujourd'hui, donc, tu dirais que la science-fiction, c'est quoi ?
C'est très difficile à dire, parce que justement, il y a tellement de possibilités. Parce que, disons, on peut dire surtout qu'il y a plusieurs science-fictions. Bon, je ne parle pas de science-fiction spatiale, de la science-fiction sociale. Il y a aussi la science-fiction d'aventure. Il y a la science-fiction philosophique, la science-fiction politique. Bon, là, déjà, c'est déjà quatre grands moments. Donc on ne peut pas faire une définition générale. Simplement, on peut dire, à la base, c'est quand même, à partir d'une hypothèse imaginaire, écrire un récit logique qui démontre que ce que l'on a proposé au début peut se passer dans la réalité. Voilà, c'est un peu ça.
Ok, hein? Je comprends.
Voilà. Bravo.
Très bien, ça marche. Merci beaucoup.
Voilà, et ensuite je suis en train d'écrire un autre roman qui s'appelle Le paquebot immobile.
Oh, c'est vrai.